Hélène Philippe pour le journal, bonsoir.
Bonsoir à tous. Que sait-on d'Omicron, ce nouveau variant détecté en Afrique du Sud qui inquiète la planète? Pas de panique, c'est le message ce soir du Conseil scientifique en France, du président américain aussi. On fera le point sur sa dangerosité, sa contagiosité. Un argument de plus pour accélérer la campagne de rappel vaccinal en France. Les centres rouvrent un peu partout pour faire face à l'afflux de demandes. Dans l'actualité aussi, la carte de la fermeté de la France après le naufrage dramatique dans la Manche la semaine dernière, vis-à-vis des passeurs, effectifs de sécurité doublés, et du Royaume-Uni, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, accuse de double discours. Un an de prison ferme requis en appel à l'encontre de François Fillon pour des soupçons d'emploi fictif. Égalité professionnelle, il y a eu des efforts depuis la mise en place de l'index, mais pas partout. Et puis de la terre monégasque prend le chemin de Paris pour l'entrée demain de Joséphine Baker au Panthéon. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, allez-y avec vos interrogations sur cette histoire de variant Omicron, justement parce que effectivement ça sent la panique et c'est pas forcément raisonnable. On va aussi parler de ce premier jour en protocole changé dans les écoles pour éviter de trop fermer de classe, mais est-ce que tester tous les enfants est assez fluide pour que ça marche? Est-ce que c'est compatible ce changement de protocole avec l'arrivée du nouveau variant? À vos téléphones au 01 45 24 7000.
France Inter. En état d'alerte peut-être, mais sans panique. Alors que le monde observe avec inquiétude l'émergence du nouveau variant Omicron, le président américain Joe Biden se veut rassurant.
Tôt ou tard, nous découvrirons des cas de ce nouveau variant aux États-Unis et nous affronterons cette menace comme nous l'avons fait avec les précédentes. Face à ce variant, il faut être vigilant, mais ce n'est pas une raison pour paniquer. Nous avons les meilleurs vaccins au monde, les meilleurs traitements, les meilleurs chercheurs et nous en apprenons plus tous les jours. La meilleure protection, et je sais que vous en avez assez, que je le répète, la meilleure protection contre ce variant ou tout autre variant, c'est d'être complètement vacciné et de recevoir une dose de rappel. Allez-y aujourd'hui.
Go get the booster shot today.
Les mots de Joe Biden traduits par Loïc Loury il y a quelques instants, qui ne veut pas s'affoler, mais Omicron, c'est un caillou de plus tout de même dans la lutte contre la pandémie. Il préoccupe les autorités scientifiques, les chefs d'État, les dirigeants du G7 réunis à Londres cet après-midi jugent qu'il impose une action urgente car hautement transmissible, mais on manque encore de données. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
C'est l'Afrique du Sud qui alerte en premier la semaine dernière. Il faut s'arrêter un instant sur la situation là-bas. Qui est malade et que peut-on en déduire?
Déjà, il est nécessaire de resituer le contexte dans lequel le variant a émergé en Afrique du Sud. Le pays était depuis début septembre dans une période très calme côté pandémie. 250 cas positifs par semaine début novembre, c'est vraiment très peu. Les premiers cas positifs au variant d'Omicron ont été repérés aux alentours du 8-9 novembre. Et depuis, les contaminations augmentent très fortement. Plus de 2800 cas uniquement sur la journée d'hier. Ça reste bas, mais les autorités sanitaires du pays estiment que cela pourrait monter très rapidement. Les 10 000 cas quotidiens pourraient être dépassés d'ici la fin de la semaine. Ce qui inquiète donc, c'est la rapidité à laquelle ce variant se répand. Mais il est bon de rappeler aussi que seul un quart de la population sud-africaine est vaccinée, majoritairement avec du Johnson ou de l'AstraZeneca, moins efficace que des vaccins ARN messagers.
Une situation finalement très différente de celle de l'Europe en pleine cinquième vague, ce qui fait qu'on a encore du mal à appréhender sa dangerosité, sa contagiosité.
Oui, très compliqué de dire à l'heure actuelle si Omicron va réussir à prendre le dessus en Europe face à un niveau de contamination au Delta extrêmement élevé. Ce qui inquiète, c'est notamment la trentaine de mutations sur la protéine Spike, elle pourrait potentiellement le rendre plus contagieux et plus résistant aux anticorps, mais il faudra encore attendre plusieurs semaines pour le savoir. Quant à sa dangerosité, les Sud-Africains touchés semblent pour le moment ne faire que des formes peu graves, même sans être vaccinés, mais c'est aussi une population plus jeune qu'en Europe.
On apprend ce soir qu'il y a un cas avéré en Espagne et en France.
Eh bien, 8 personnes de retour d'Afrique australe sont suspectées d'être positives au variant Omicron. Les tests PCR ne peuvent pas directement estimer s'il s'agit du nouveau variant, juste le suspecter. Leurs échantillons sont donc actuellement séquencés. 3000 autres tests ayant donné des résultats suspects la semaine dernière sont aussi en cours de séquençage pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'Omicron.
On en saura plus dans les jours prochains. Merci Hélène Chevalier. Les chefs d'État du G7 prennent la précaution ce soir de saluer ce travail de détection de l'Afrique du Sud qui observe de son côté un peu amèrement les restrictions de voyage que de plus en plus de pays imposent en direction de l'Afrique australe. Un isolement qui inquiète jusqu'à l'ONU. Plutôt que de se refermer, le monde devrait partager les vaccins, c'est le message des dirigeants sud-africains, où seulement, vous le disiez Hélène, 24% de la population est complètement vaccinée. Et l'occasion pour la Chine de relancer son activisme vaccinal sur le continent. Au forum de coopération sino-africaine de Dakar au Sénégal aujourd'hui, Pékin a promis 1 milliard de doses de vaccins. Omar Waman est notre correspondant dans la région.
En visioconférence depuis Pékin, le président chinois a longuement évoqué la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde, appelant notamment à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins afin de permettre à l'Afrique de combler son retard. L'Union africaine, qui s'est fixée comme objectif de vacciner 60% de la population du continent afin d'atteindre l'immunité collective, peut compter sur le soutien de la Chine. Xi Jinping s'est engagé cet après-midi à fournir 1 milliard de doses supplémentaires, 600 millions sous forme de dons et 400 millions de vaccins produits conjointement avec les pays africains concernés. Une annonce qui a été très applaudie par les délégations présentes. Par ailleurs, Pékin a promis de réaliser 10 centres de santé sur le continent africain et d'envoyer dans les prochaines semaines près de 1500 professionnels médicaux. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, veut également être la première nation à se porter à son chevet sur le plan sanitaire. Depuis le début de la pandémie, les pays africains peinent à vacciner leur population, faute de moyens. Dakar, Omar Waman, France Inter.
Et c'est tout l'enjeu aussi du dispositif COVAX qui a franchi les 500 millions de doses de vaccins distribuées dans le monde mi-novembre à 144 pays. Des dons souvent ponctuels, sans prévenir suffisamment tôt avant une livraison pour organiser une vraie campagne de vaccination, regrette tout de même l'Union africaine. La campagne qui reprend de la vigueur en France, campagne de rappel vaccinal, 3e dose ouverte à tous les adultes. C'est difficile d'obtenir un rendez-vous en ce moment. Plus d'un million de prises de rendez-vous sur Internet ce week-end. Et voici qu'on remonte à toute berzingue des centres de vaccination dans les salles communales, dans les gymnases. Reportage France Bleu Berry, Delphine Marion Boule à Argenton-sur-Creuse.
Voilà, je vous pique.
Les portes du centre de vaccination sont à peine ouvertes que les piqûres s'enchaînent.
Voilà.
Merci. Ici, c'est 5 minutes en moyenne pour recevoir sa dose. Pour Nicole, venue pour son rappel, ce déménagement est réussi.
Le lieu est un petit peu différent, mais il n'est pas plus loin pour les gens qui habitent le coin. C'est bien, c'est correct, comme le premier. On est pris aussi rapidement, donc, et les gens sont aussi sympathiques.
Il faut dire que l'équipe prend ce 5e déménagement avec philosophie. Marilyn Baudin est infirmière et à 16 heures perdues, docteur S déménagement.
Voilà, c'est ça. On réaménage chaque fois qu'on y va pour mettre les chaises, mettre les... Voilà. Donc là, c'est plus facile quand même. Et on finit par oublier, mais ça fait déjà 2 ans, en fait, qu'on remet le couvert. On pensait qu'on allait un petit peu pouvoir souffler, mais bon.
Le repos attendra, car la salle du complexe sportif permet de faire tourner 2 lignes à plein régime, de multiplier par 5 les capacités. Patrice Guen, médecin retraité et co-directeur du centre.
En phase de décélération, on était le samedi matin à 200 doses, mais à partir de maintenant, on revient sur un schéma antérieur de 5 demi-journées par semaine, à un niveau de en gros 1000 vaccins semaine.
Depuis son ouverture, la structure a permis de vacciner 32 000 personnes.
Et dans le même temps, les protocoles évoluent dans les écoles. À partir d'aujourd'hui, plus de fermeture systématique au premier cas. Et dans les entreprises, l'arbre de Noël entre collègues, pas très recommandé. Un déjeuner à la cantine plus isolé qu'avant. 2 mètres entre chaque personne conseillée. Quant au télétravail, les entreprises sont maîtres à bord. Pas de consignes fermes, mais à chacune de s'organiser en concertation avec ses salariés. N'hésitez pas à appeler, hein, c'est le sujet du téléphone juste après ce journal.
Au 01 45 24 7000. Après la mort de 27 personnes dans la Manche la semaine dernière, quelle réponse de la France?
Il y a eu une réunion à Calais hier des ministres européens sans que l'invitation ait été envoyée aux Britanniques. Ils ont décidé de déployer un avion de l'agence Frontex pour surveiller l'activité des passeurs et les éventuels départs de migrants. Conseil de défense aussi ce matin et nouvelle proposition. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Que le ministre de l'Intérieur vient de détailler.
Avec une annonce, les effectifs de policiers et gendarmes qui luttent contre les passeurs seront doublés et des antennes régionales créées l'année prochaine. Pour le reste, et le plus important en réalité, c'est-à-dire la relation avec les Britanniques, Gérald Darmanin tend la main mais prévient, il faut d'abord changer de ton.
À partir du moment où il n'y aura plus de double discours et que nos échanges privés correspondent à nos échanges publics, le gouvernement français est tout à fait prêt à reprendre très rapidement les discussions avec la Grande-Bretagne.
Alors sur le contenu de ces discussions, justement, le ministre rejette toute renégociation des accords du Touquet qui place la frontière côté français et qui est fustigée par la quasi-totalité des candidats à la présidentielle. Il rejette aussi la provocation de Boris Johnson que la France reprenne les migrants qui traversent la Manche, disait le Premier ministre britannique. Gérald Darmanin veut d'abord des contreparties et plaide pour un accord Europe-Royaume-Uni.
L'Europe et la France sont aujourd'hui les premières victimes de l'attractivité du territoire britannique. Et donc cela veut dire que d'abord, cet accord doit trouver les moyens de rouvrir les voies légales d'immigration en Grande-Bretagne. Nous constatons qu'il y a 30 000 demandes d'asile en Grande-Bretagne Et en France, nous avons 150 000 demandes d'asile.
Que Londres prenne sa part dans l'accueil des demandeurs d'asile, que le système économique britannique soit moins attractif pour les clandestins, voilà donc les conditions de la France. Avant de discuter d'éventuelles réadmissions, le Premier ministre Jean Castex écrira demain à son homologue pour lancer ces discussions.
Simon Le Baron. Et pendant ce temps, le déplacement compliqué du ministre des Outre-mer en Guadeloupe, la rencontre avec l'intersyndicale a tourné court. Sébastien Lecornu reproche autant au syndicat de ne pas condamner les récentes violences sur l'île. Le travail de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église est-il discutable? Unanimement salué à la publication du rapport. Et pourtant, aujourd'hui, 8 membres de l'Académie catholique de France, une organisation d'intellectuels catholiques, laïcs et religieux, le remettent en cause. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Est-ce qu'ils remettent en cause précisément, c'est le chiffre, le nombre qui nous a le plus marqué, c'est 330 000 victimes estimées?
Oui, pour les 8 signataires de ce texte envoyé au pape, c'est la principale conclusion du rapport Sauvé qu'il faut contester. L'avocat et ancien sénateur LR Hugues Portelli, président de cette académie catholique, mais qui s'exprime en son nom propre, la récuse.
330 000, c'est pas possible. Pour une raison qui est très simple, c'est que premièrement, le calcul est faux. Et puis deuxièmement, s'il y avait vraiment eu 330 000 victimes, ça serait su, parce qu'on ne peut pas taire 330 000 cas de crimes.
Dans son texte, il défend plutôt une autre estimation du rapport Sauvé de 27 800 victimes qui se base, elle, sur les archives de l'Église. Pour Nathalie Bajos, démographe et directrice de recherche à l'INSERM qui a mené l'étude qui conduit au nombre de 330 000, les archives ne permettent pas de tout voir. Elle accepte la critique, dit-elle, mais pas une remise en cause de la méthode scientifique.
Il considère qu'on ne peut pas, à partir d'une enquête auprès de 28 000 personnes, extrapoler les résultats qu'on trouve à l'ensemble de la population. En tant que scientifique, j'ai du mal à comprendre ces arguments parce qu'ils reviennent à remettre en cause la théorie des sondages. On peut critiquer ce qui est critiquable. Après, si on dit que ça n'existe pas, la théorie des sondages, d'accord, ça n'existe pas. Et la Terre est plate.
Et le texte estime aussi qu'il n'y a pas de responsabilité institutionnelle de l'Église. C'est pourtant ce qu'a voté la Conférence des évêques de France. Son président Éric de Moulin-Beaufort a d'ailleurs défendu cet après-midi dans une tribune dans le journal La Croix, le travail de la commission Sauvé.
Jean-Marc Sauvé et les membres de la commission qui préparent une réponse écrite à ce texte dans les prochains jours. Justice et réquisitoire un peu moins lourd qu'en première instance au procès du couple Fillon pour emploi fictif. Le parquet requiert 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, et 375 000 euros d'amende à l'encontre de François Fillon. 2 ans de prison requis à l'encontre avec sursis à l'encontre de son épouse. L'eau continue de monter dans le nord. La vigilance orange crue est maintenue d'ailleurs jusqu'à demain 16h dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais après les fortes pluies d'hier. Une vieille dame de 88 ans a été retrouvée noyée dans sa cave à bord près d'Asbrook. La maire de la commune, Bernadette Popelier, l'avait eue la veille au téléphone.
La rue était inondée, certes, mais l'eau dans la cave n'était pas affolante. Et je lui ai conseillé d'attendre ce matin pour appeler les pompiers pour voir, puisqu'il y avait que 50-60 cm. Je sais pas, j'ai pas mesuré, mais c'était pas vital, quoi. Et hier soir, je l'ai rassuré en disant que les pompiers avaient été sollicités toute la journée d'hier pour mettre des personnes en sécurité. Puis je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Elle a sûrement décidé d'aller ouvrir la porte et de regarder par elle-même, et elle a sûrement glissé, et puis voilà. C'est en tout cas très très triste, moi j'en suis fort affectée. D'autant plus que c'est ma voisine, mais bon, pas que quoi, c'est quand même un de mes concitoyens. Et puis avoir 88 ans et décéder comme ça, c'est bien triste. Hein.
La maire de Bord, Bernadette Popelier, avec Romane Porcomte, France Bleu Nord, et donc vigilance encore jusqu'à demain 16h.
Presque 8 femmes par jour partent à l'étranger pour avorter parce qu'elles sont en dehors des délais légaux français.
Les députés proposaient donc d'allonger ce délai de 12 à 14 semaines. On a cru l'idée enterrée cet été quand le chef de l'État a dit qu'il n'y était pas favorable. Mais finalement, le texte revient en seconde lecture dans l'hémicycle, porté par la majorité. Marie Maheu, vous êtes à l'Assemblée nationale en ce moment, Marie, pour des débats qui vont bientôt commencer.
Oui, d'ici quelques dizaines de minutes, et ils vont sûrement être musclés, ces débats. Plus de 500 amendements ont été déposés par des députés Les Républicains, comme en première lecture, pour des raisons éthiques et parce que le texte ne correspondrait pas aux besoins des femmes, explique par exemple la députée LR Geneviève Lévy. Une position qui agace fortement Alban Gaillot, rapporteur et auteur du texte.
Plusieurs milliers de femmes, chaque année, partent à l'étranger pour avorter. C'est une vraie inégalité sociale. Et allonger les délais, supprimer la clause de conscience, permettre aux sages-femmes de pratiquer une IVG instrumentale et créer un répertoire des professionnels pratiquant l'IVG. Ce sont des vraies réponses aux problématiques que rencontrent les femmes.
Et puis autre enjeu, c'est que ce texte aboutisse avant la fin du quinquennat. Il ne reste que très peu de temps. Certains craignent qu'il ne soit qu'un prétexte pour aborder la présidentielle sur une note progressiste. Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, s'en défend.
Nous ne faisons pas de communication spectacle avec des textes dont nous savons qu'ils ne chemineraient pas et qu'ils n'aboutiraient pas. Ce qui compte, c'est de donner des droits et de faire en sorte que ces droits soient des droits réels.
Réponse dans les semaines à venir. Le gouvernement, lui, reste sur une position ni bloquante ni aidante. La semaine dernière, au Vatican, Emmanuel Macron a redit qu'il n'était pas pour, mais qu'il respectait la liberté des parlementaires.
Marie Maheu avec Geoffrey Marianne en direct de l'Assemblée nationale. Et en matière d'égalité professionnelle, est-ce qu'on avance ? On a presque 3 ans de recul désormais sur la mise en place de l'index en entreprise, obligatoire pour celles qui ont plus de 50 salariés et qui permet de mesurer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
La DARES, l'Institut statistique du ministère du Travail, fait le bilan ce soir. Quelles entreprises progressent et dans quel secteur ?
Eh bien, ce sont les grandes entreprises qui s'en sortent le mieux et qui progressent le plus en 3 ans, là où les ressources humaines sont en général déjà armées et structurées pour mesurer les écarts de salaire, les écarts dans les augmentations et dans les promotions. On mesure un bond parfois d'une dizaine de points sur 100 depuis le lancement de ce nouvel outil. Beaucoup de grandes entreprises ont désormais plus de 90 points, alors que les notes sont souvent moins bonnes et la progression moins spectaculaire dans les plus petites sociétés. Parfois l'index y est même carrément incalculable. Alors c'est l'indicateur des retours de congés maternité avec l'augmentation de salaire légal qui va avec, qui a le plus progressé en moyenne. Et puis ce qu'on voit, c'est que c'est dans les secteurs les plus féminisés ou les plus mixtes que les notes sont les meilleures. Administration publique, action sociale, industrie pharmaceutique par exemple. A contrario, dans l'électronique ou dans le secteur de la construction, c'est un peu moins bon. Mais ce qu'il serait maintenant intéressant de regarder selon plusieurs confédérations syndicales, c'est la part des femmes dans les plus bas salaires des entreprises, indicateurs qui n'existent pas pour le moment.
Les salaires qui sont aussi un vrai sujet de crispation en ce moment dans de nombreuses entreprises. La branche de l'hôtellerie-restauration est en train de négocier. L'agroalimentaire se mobilise et ça fait 10 jours que les salariés de Leroy Merlin sont en grève, mouvement social inédit dans l'entreprise. Ils dénoncent des augmentations inférieures à l'inflation. Cette année, la direction devrait recevoir l'intersyndicale demain. L'inflation en Allemagne qui dépasse même 5% au mois de novembre, au plus haut depuis 1992. Et puis en bref, encore que de rebondissements en Suède. Revoici Magdalena Andersson, réélue première ministre, après une élection démission en moins de 7 la semaine dernière à cause d'un fiasco parlementaire sur le budget. Elle a accueilli la nouvelle avec le sourire, davantage préparée à être émue cette fois-ci, a-t-elle dit.
Allez, Joséphine Baker va donc entrer au Panthéon demain symboliquement parce que son corps, lui, reste à Monaco.
Oui, là où elle avait trouvé refuge 6 ans avant sa mort, alors qu'elle était criblée de dettes, là où un hommage avait lieu dès ce soir. La principauté envoie un peu de terre monégasque à Paris qui sera mêlée demain dans une urne à celle de Saint-Louis, son lieu de naissance, Paris donc, et celle de son château en Dordogne. Hommage monégasque suivi ce soir par Laurent Vareille de France Bleu Azur.
Coincée entre une tombe et un mur ensoleillé, la dernière demeure de Joséphine Baker est toute simple, presque cachée. C'est là que quelques personnalités monégasques, le prince Albert, ont rendu un dernier hommage à l'artiste franco-américaine.
C'est très émouvant de pouvoir lui rendre cet hommage aujourd'hui, de montrer que les liens qui existaient entre elle et la principauté, de pouvoir symboliquement mettre dans une urne un peu de cette terre de Monaco qu'elle a connue à la fin de sa vie, qui faisait partie de sa vie, comme ses autres lieux de naissance ou de préférence. Et voilà, et de montrer aussi le fait que c'était la volonté de sa famille, que son corps reste à Monaco, mais qu'il y aura ces 4 terres mêlées à son entrée au Panthéon.
Avec une petite pelle, le prince Albert a donc pris un petit peu de terre, qu'il a mis dans une urne. C'est elle qui sera dans le cercueil au Panthéon, avec celle venant de Dordogne, de Paris ou encore des États-Unis. Car le corps restera bien dans la principauté de Monaco, là où, ruinée, elle trouva refuge en 1969, accueillie et aidée par la princesse Grace. Son fils, Jeannot Bouillon-Baker.
Eh, parce que c'est normal. Heureusement qu'il y a eu la princesse Grace. Hein. Heureusement, je remercie tout le temps.
Vous en voulez un petit peu à la France, qui n'a rien fait ?
Oui, elle a tout fait pour la France, mais la France, elle n'a rien fait pour elle.
Une histoire de dette, on l'entend. En 1969, en effet, la famille Baker aurait voulu que la France l'efface, ce qu'elle n'a pas fait. Son entrée au Panthéon devrait contribuer à un début de réconciliation.
Un reportage signé Laurent Vareille. Et prenez date hein, demain, prenez l'heure, 17h-20h, on vous fera vivre la cérémonie en direct au Panthéon de Régis Debray et Emmanuel Macron. Le récit de la panthéonisation de Joséphine Baker, c'est aussi à lire sur franceinter.fr.
Hélène, merci beaucoup.